C'est en lisant qu'on devient liseron. La Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche vous invite, petits et grands, à ouvrir vos oreilles pour écouter des histoires racontées par les bénévoles de Lire et Faire Lire. Une émission réalisée conjointement par les radios ardéchoises, Radio des Boutières, Radio d'ici, Déclic Radio et Fréquence 7.
Le petit chaperon rouge n'a pas tout vu. Un livre écrit par Mar Ferrero, édité chez Gallimard Jeunesse, collection Giboulée. Le petit chaperon rouge. J'ai 9 ans et j'habite avec mes parents et ma grande sœur dans la maison bleue à l'orée du bois. J'adore lire et je voudrais avoir un chien. Ma couleur préférée, c'est le rouge. Ma brosse à dents est rouge, mon cartable est rouge et ma tasse de petit déjeuner est rouge. Pour mes 8 ans, ma mère m'a fait un manteau rouge à capuche. Ah, il me plaît tellement que je le mets tous les jours. Du coup, tout le monde m'appelle le petit chaperon rouge. Comme ma sœur traverse une période difficile, c'est comme ça que disent mes parents. Et qu'elle passe ses journées enfermée dans sa chambre à écouter une musique horripilante. C'est toujours moi qui dois faire les commissions pour ma mère. Et du coup, ce jour-là, elle m'a envoyée chez ma grand-mère pour lui apporter un petit panier rempli de bonnes choses. « Ne traîne pas, » m'a dit ma mère. « Je ne veux pas que tu te balades dans les bois quand il fait nuit. » Le bois sentait merveilleusement bon, le sol était couvert de fleurs et les oiseaux n'arrêtaient pas de chanter. Je fermais les yeux pour mieux écouter les oiseaux et je les ouvrais pour contempler les nuages. Je les refermais pour mieux sentir les fleurs et l'écorce humide des arbres et je les rouvrais pour profiter des couleurs du printemps. Je les refermais à nouveau pour sentir l'herbe mouillée sous mes pieds et tout d'un coup, paf ! J'ai buté contre une chose poilue et malodorante et je suis tombée. Le loup. J'étais en train de chercher des truffes dans les bois quand une petite fille avec un manteau rouge à capuche m'est tombée dessus. Elle m'a flanqué une trouille pas possible parce que les humains ont la manie de m'attaquer. À chaque fois qu'ils me voient, ils me jettent des pierres, ils me tirent dessus, ils me tendent des pièges. J'allais partir en courant, mais j'ai vu qu'elle avait encore plus peur que moi. Elle s'était écorché les genoux et tout ce qu'elle transportait dans son panier s'était répandu sur le sol. Alors je l'ai aidée à tout ramasser. Miam! Quand j'ai senti l'odeur du saucisson, ça m'a mis l'eau à la bouche. Cours! Je me suis dit, prends le saucisson et cours! La fillette a dû lire dans mes pensées parce qu'elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit, c'est pour ma mère grand. J'ai eu un peu honte. Et j'ai remis le saucisson dans le panier avec tout le reste. Merci, monsieur, m'a dit la petite fille. Je suis le petit chaperon rouge et je vais chez ma mère grand qui habite là-bas, dans la vallée, dans la maison rouge, près du ruisseau. Ma mère lui fait porter ce panier, blablabla, blablabla, blablabla. J'avais déjà arrêté d'écouter et je pensais, si elle ne s'en va pas, je vais finir par lui piquer le saucisson. Alors, je me suis retournée et j'ai continué à creuser pour voir si je trouvais une truffe, pour me consoler. La gamine a eu l'air vexée et elle s'est éloignée en marmonnant. Après ça, je n'ai trouvé que 2 truffes de plus. Mais quand j'ai voulu les mettre dans mon panier, je me suis rendu compte que le petit chaperon rouge les avait échangées sans faire exprès. Elle m'avait laissé le sien, rempli de bonnes choses. Quelle chance ! Je me suis emparée du délicieux saucisson, j'ai ouvert la bouche et je n'ai pas été capable de le manger car je suis un loup très honnête. Je me suis dit, bon, je vais rapporter le panier à la grand-mère. Peut-être qu'elle me proposera un petit morceau de cette délicieuse charcuterie pour me remercier. Alors j'ai pris le panier et j'ai couru vers la vallée par le vieux raccourci que nous, les loups, sommes les seuls à connaître. Les petits animaux du bois.
Nous, les petits animaux, nous connaissons les bois comme notre poche et nous sommes toujours au courant de tout ce qui arrive. Nous savons aussi, comme tout le monde, que les loups sont de très, très grands méchants. Alors, en voyant ce loup poilu et malodorant parler avec le petit chaperon rouge et ensuite filer vers la maison de l'adorable grand-mère sans défense, nous avons tout de suite deviné qu'il allait les manger toutes les deux et qu'il n'en laisserait pas une miette, même pas leurs chaussettes. Nous avons donc immédiatement organisé une réunion d'urgence et élaboré un plan d'attaque.
Je suggère aux parents et aux enfants qui écoutent cette histoire d'aller voir le livre pour regarder le plan d'attaque des petits animaux de la forêt.
Mais ce satané loup, malgré tous nos efforts, a réussi à atteindre la maison de la grand-mère.
Mère Grand, quand on a sonné à ma porte, je m'attendais à voir le petit chaperon rouge. Mais en ouvrant, je me suis retrouvée nez à nez avec une créature toute poilue, en piteux état, étendue sur le paillasson. Oh, le pauvre, pauvre petit loup.
Mon canard, tu es tout trempé et égratigné de partout. Et tu as été dévoré par les abeilles. Et quelle énorme bosse sur ta tête. Allez, entre, viens vite que je te soigne.
Alors, je me suis dépêchée d'aller chercher la trousse de secours. Je lui ai mis de la pommade sur ses piqûres d'abeilles, de la teinture d'iode sur ses blessures, et puis j'ai fourré des glaçons dans mon bonnet de nuit et je le lui ai mis sur la tête pour soulager ses bosses. Ensuite, je lui ai fait enfiler ma vieille chemise de nuit de flanelle pour qu'il se réchauffe. Comme il est très coquet, il a résisté. Je l'ai couché sur le canapé et je l'ai bordé avec une couverture bien chaude. J'étais dans la cuisine en train de préparer le thé quand on a de nouveau sonné à la porte. Ting, dong, c'est ouvert, a dit le loup d'un filet de voix tout faible. Cette fois, c'était bien le petit chaperon rouge, je l'ai entendu dire au loup.
Oh, comme tu as de grands yeux!
C'est pour mieux te voir, a répondu celui-ci.
Oh, comme tu as un grand nez!
C'est pour mieux te sentir.
Oh, comme tu as de grandes oreilles!
C'est pour mieux t'entendre.
Oh, mère grand! Comme tu as une grande bouche!
La théière s'est mise à siffler. Je l'ai posée sur le plateau à côté des biscuits sans sucre et je suis entrée dans le salon avec le goûter. Le loup m'a regardée d'un air inquiet.
« Elle m'a appelé Mère Grand, » m'a-t-il dit, stupéfait. « Cette gamine est complètement miro. Vous vous rendez compte? Elle m'a confondu avec vous. »
Du coup, j'ai montré trois doigts. « Combien de doigts vois-tu, mon petit chaperon rouge ?»«
Deux ?» a-t-elle répondu gaiement. Vous connaissez certainement la fin de l'histoire. Le loup s'est remis de ses blessures en quelques jours, grâce à un régime à base de sandwich au saucisson. Quant à moi, j'ai personnellement emmené le petit chaperon rouge chez l'opticien qui lui a fabriqué d'adorables lunettes à monture rouge.
L'affreuse bête de Mont la Terreur. Alexandra Garibald, Julie Colombet, aux éditions Kaléidoscope. Ce matin, Facteur Lapin commence sa toute première tournée. Il lit l'adresse à laquelle il doit se rendre. Le château tout en haut, 5 impasse des Sanglots, 9865, Mont la Terreur. Ça perd l'hypopète. Je ne connais pas cet endroit, souffle Facteur Lapin. Je vais demander à Roger de me l'indiquer. En trois bonds, Facteur Lapin quitte le bureau de poste. Roger, chien de chasse retraité, est en train de roupiller. Quand Facteur Lapin lui secoue sa lettre sous le nez, il grommelle Sans mes lunettes, je peux pas lire. Facteur Lapin demande. Allez, Gégé, fais un effort, s'il te plaît. Je te rapporterai des pâtés après ma distribution du courrier. Roger esquisse un sourire et colle sa truffe contre la lettre. Le château, tout en haut, 5-1, passe des sanglots. Le vieux chien se redresse et s'écrie « Mon la terreur ! Le mont derrière la forêt !» Lapin, il faut être très prudent pour s'y aventurer. L'ancien facteur déposait toujours le courrier devant la porte pour ne pas croiser son destinataire. On raconte que c'est une bête mystérieuse, une voleuse qui ne sort que la nuit. Facteur Lapin reprend la lettre et remercie poliment Roger. Une bête mystérieuse ? Une voleuse ? Facteur Lapin est postier. Son métier est de distribuer le courrier. Alors, il se dirige vers la forêt. Il se retrouve peu après, bec à museau, avec un sinistre corbeau. Celui-ci croasse mielleusement. « Bonjour, Anka gourmand. J'ai justement un petit creux. Tu tombes à pic. »« Je n'ai pas le temps de discuter. Je suis en train de travailler, » répond Facteur Lapin agacé. « Je dois aller déposer une lettre au château de Mont-la-Terreur. » À ces mots, le corbeau sautille et bredouille. « Mont-la-Terreur ? Par-delà le champ de ronces ? On raconte que la bête qui y vit se faufile dans les chambres la nuit, quand les enfants sont endormis. Après, qu'est-ce qu'elle y fait ? Nul ne le sait. » Et le corbeau s'envole, sans plus attendre. Une bête qui se glisse la nuit près des enfants endormis. Facteur Lapin est postier. Son métier, c'est de distribuer le courrier. Alors, il commence à traverser le champ de ronces. C'est là qu'il rencontre un affreux loup noir. Celui-ci sourit de toutes ses dents. « Bonjour, jolie casse-croûte. C'est moi que tu cherches ?» « Tu veux que je te dévore ?» Facteur Lapin répond sèchement. « Mais poussez-vous de mon chemin. Je vais au château de Mont-la-Terreur. Je travaille là. J'ai pas de temps à perdre. »« Mont-la-Terreur ? Le mont juste après la rivière bouillonnante ?» s'affole le loup. Oh, « Quelqu'un a aperçu un jour l'ombre terrifiante de la bête qui y vit. Elle a une longue queue. Elle est poilue, elle a des dents pointues et des pattes toutes griffues. » Et le loup s'enfuit sans tarder. Une longue queue, un corps poilu, des dents pointues et des pattes toutes griffues. Facteur Lapin est postier. Son métier, c'est de distribuer le courrier. Il franchit la rivière bouillonnante et arrive au pied de Mont-la-Terreur. Il inspire un grand coup et entreprend l'ascension du sentier escarpé. Facteur Lapin arrive devant la porte du château tout en haut. Alors qu'il sort la lettre de sa sacoche, plouf ! Une bourrasque là lui arrache des pattes. « Ah, sapristi ! » souffle-t-il en bondissant pour la rattraper. « Je peux pas laisser la lettre sur le paillasson, comme le vieux facteur le faisait. » Elle risquerait de s'envoler. Facteur Lapin tremble de la tête aux pieds, telle une feuille de chou frisé. Alors il respire profondément, serre les dents et sans plus réfléchir, il frappe à la porte. On ouvre. C'est la bête avec une longue queue, un corps poilu, des dents pointues et des pattes toutes griffues. Facteur Lapin l'entend bâiller. Comme elle ne sort que la nuit, il l'a sans doute réveillée. Tout autour, il voit plein de pièces dorées. Puisque c'est une voleuse, ce sont sûrement les sous qu'elle a dérobés.
Facteur Lapin est postier. Son métier, c'est de distribuer le courrier. Alors, il fait quelques pas pour donner sa lettre.
Merci, monsieur le facteur,
se réjouit la bête.
J'attendais ce courrier. C'est la liste des enfants à qui je dois déposer un beau sou doré contre leurs petites dents tombées. Voulez-vous une tasse de thé ?
Facteur Lapin n'en croit pas ses oreilles. Il sourit et bredouille.
Oh, oh oui, s'il vous plaît, madame la petite souris. Mais je ne resterai pas trop longtemps. J'ai promis à mon ami Gégé de lui rapporter des pâtés.
Puis, Facteur Lapin et la petite souris s'installent confortablement pour se raconter leur tournée.
Jabari plonge, un livre écrit par Gaïa Cornwall, traduction de Christiane Duchesne, aux éditions 2.
Aujourd'hui, je saute du tremplin, dit Jabari à son papa.
Ah oui ? Répond son papa. Le tremplin est haut. Il fait peut-être un peu peur. Mais Jabari a terminé ses cours de natation. Il a réussi l'examen et le voilà prêt à plonger.
« Je suis un grand plongeur, » dit-il. « Alors, je n'ai pas peur du tout. »
Jabari regarde les autres enfants grimper en haut de la longue échelle. Il s'avance jusqu'au bord du tremplin, pas plus gros que des fourmis. Ils ouvrent les bras, plient les genoux, ils sautent, hop, 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 puis ils plongent. Plouf !
Facile, dit Jabari. Mais quand son papa lui serre la main, il la serre bien fort à son tour.
Jabari est au pied de l'échelle. Il regarde en haut.
Tu peux passer devant moi si tu veux, dit-il à celui qui est derrière lui. Il faut que je pense au saut spécial que je vais faire.
Jabari réfléchit et réfléchit encore. Jabari commence à monter. Cette échelle est vraiment très haute, songe-t-il.
Ça va ?
Demande son papa.
« Je suis un peu fatiguée, » répond Jabari. « Tu peux peut-être descendre et prendre un petit repos, » suggère son papa.
« Un petit repos, cela lui semble une très bonne idée. » Quand il arrive en bas, Jabari se rappelle quelque chose.
« J'ai oublié de faire mes étirements, » dit-il à son papa.
« Ah, les étirements, c'est très important !» approuve son papa.
« Je pense que demain, ce serait une meilleure journée pour plonger. »
Ils lèvent tous les deux les yeux vers le tremplin.
« C'est normal d'avoir un peu peur, » dit son papa.
« Parfois, si j'ai un peu peur, je prends une grande inspiration et je me dis que je suis prêt. Et tu sais quoi ? Parfois, la peur s'en va, et on sent comme une petite surprise. Jabari aime bien les surprises.
Jabari prend une grande inspiration. Il sent l'air parcourir son corps du bout de ses cheveux jusqu'à ses orteils.
Jabari regarde en haut. Il commence à grimper. Plus haut, plus haut. Et encore plus haut, jusqu'à ce qu'il arrive au sommet. Jabari se tient bien droit. Il marche jusqu'au bout du tremplin.
Il serre les orteils sur le rebord.
Jabari regarde au loin, aussi loin qu'il le peut. Il sent qu'il est prêt.
J'aime les surprises.
Il inspire profondément.
ouvre les bras et plie les genoux, puis il s'élance. Il quitte le tremplin. Il vole. Jabari frappe l'eau dans un grand plouf. Il descend plus creux, jusqu'au fond et il remonte. « Jabari, tu l'as fait !» dit son papa. « Je l'ai fait !» dit Jabari. « Je suis un grand plongeur et tu sais quoi ?»«
Quoi ?» demande son papa.
Ben « Maintenant, c'est le double saut périlleux surprise.
Jojo Lombrel, Didier Lévy, Nathalie Dieterlé, chez Belin Jeunesse. Depuis plusieurs jours, c'est la guerre dans la savane. Tout le monde se bat contre tout le monde. Coups, insultes et fruits pourris volent en tous sens. Mais voilà soudain qu'un drôle de petit éléphant arrive au milieu du champ de bataille. « J'ai perdu la mémoire !» marmonne le pachyderme, les yeux rivés au sol. « Personne ne l'aurait vu. Je suis sûr de l'avoir perdu par ici. » Ébahis, les animaux arrêtent de se battre et de se bombarder. « Jojo !» s'écrie le lion. « Bouge de là, enfin ! Tu vas te prendre un missile !» L'éléphant relève la tête, l'air surpris, et se tourne vers le lion. « C'est moi, Jojo ? C'est mon nom ? On se connaît ?» « Enfin, Jojo !» répond le lion. « Tu sais bien qu'on est voisins. »« Ah bon ?» s'étonne l'éléphant. « Je ne me souviens pas. J'ai perdu la mémoire. » Le dénommé Jojo ramasse par terre une banane qui a servi de projectile. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est rigolo ?» Le singe ouvre de grands yeux. « Mais t'as quand même pas oublié les bananes ?»«
Oh, je me rappelle pas. » soupire l'éléphant. « Banane, tu dis que ça s'appelle ?»
Le lion et le singe agitent un drapeau blanc et crient « Pousse ! 5 minutes de cessez-le-feu !» Il s'approche de Jojo.
« Vous venez m'aider à retrouver la mémoire ?» demande l'éléphant.
Le singe prend la banane, l'épluche et la tend à Jojo. « Goûte !»«
Ça se mange ?»
Le lion et le singe se regardent. Le crocodile vient les rejoindre et prend l'ombrelle de Jojo pour en faire une table. L'éléphant s'assoit et croque dans le fruit. Mmm, fait-il avec un grand sourire. Délicieux. Mmm, je peux en avoir un autre. Le lion se met à rugir. Qui aurait une banane pour Jojo? Au bout de quelques secondes, chacun sort de son abri en agitant des bananes.
« Comme c'est gentil !» s'écrie Jojo.
« C'est l'heure du goûter ? »
Oh, ce serait bien si c'était l'heure du goûter !»
Les animaux s'approchent avec leurs bananes, ils prennent place autour de la table ombrelle en se lançant des regards méfiants.
« Est-ce qu'il y en a d'autres avec qui on est voisins ?» demande Jojo au lion.
« Bah, on est tous voisins !» répondent en chœur les animaux.
Même qu'on était tous à l'école ensemble ?
L'éléphant hoche la tête, l'air pensif.
Et c'était déjà la guerre, comme ça, à l'école ?
Les animaux s'observent un moment. Le sage dit Bah non.
On était tous copains, ajoute l'hippopotame.
Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Demande Jojo. Les animaux se regardent à nouveau et chacun se met à désigner son voisin. «
C'est lui qui a commencé ! Non, c'est lui ! C'est lui !
Il m'a traité de... »
La bataille générale est sur le point de reprendre quand Jojo tape sur la table.
« On a dit pouce tout à l'heure, non ?
Et quand on a dit pouce, c'est pouce ?»
Surpris par la grosse voix du petit éléphant, tout le monde se fige, puis chacun épluche sa banane. Et comme ce sont de succulentes bananes, bien meilleures à manger qu'à se jeter à la figure, chacun se détend et sourit.
« Ah, mais j'ai des mangues aussi, » dit le kangourou. « Qui en veut ?»
Il sort de sa poche de beaux fruits bien mûrs. Puis c'est le lion qui propose des papayes. En quelques instants, caramboles, grenades, barbadines,
Ramboutan et Corossol apparaissent, comme par magie. Quel festin! Tout le monde se régale, et même la bonne humeur s'invite à table. Détendus, les animaux repensent alors au bon moment qu'ils ont passé ensemble, il n'y a encore pas si longtemps. Content, Jojo sourit. Ça me rappelle ma fête d'anniversaire pour mes 5 ans. Vous étiez tous venus à la maison. Vous vous souvenez des copains ? Grand silence. Tous les regards se tournent lentement vers Jojo. On croyait que t'avais perdu la mémoire, s'écrient en chœur les animaux. Oh, je viens juste de la retrouver, répond Jojo avec un sourire malicieux. Tu nous as raconté des salades, oui. Et les animaux, soudain hilares, se mettent à lancer des pots de banane sur l'éléphant qui se sauve en riant. Et jusqu'au soir, le petit peuple de la savane fête joyeusement la fraternité retrouvée.
Vous venez d'écouter « C'est en lisant qu'on devient liseron », une émission de la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche en partenariat avec les radios du département, Radio des Boutières, Déclic Radio, Radio d'ici et Fréquence 7.